Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ce grand rendez-vous de l'information. Nous sommes aujourd'hui au siège de la FAO à Rome où nous aurons une heure d'entretien avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Jacques Diouf. Né le 1er août 1938 à Saint-Louis au Sénégal, Jacques Diouf a été élu le 8 novembre dernier directeur général de la FAO lors de la 27e session de la conférence de cette agence spécialisée des Nations Unies. Et avec sa prise de fonction, le 1er janvier 1994, il est devenu le 7e directeur général de la FAO, le 3e du monde en développement et le premier Africain à diriger la FAO depuis sa création le 16 octobre 1945 à Québec. Avec Jacques Diouf, nous parlerons au cours de cette émission d'Africa numéro 1, une heure pour convaincre, de l'intensification de son combat contre la faim dans le monde, des problèmes de sécurité alimentaire, de la mise en œuvre de la politique générale de restructuration, de redynamisation de la FAO et enfin de l'impact de la dévaluation du franc CFA sur sa politique de production et de productivité, pour ne citer que ces thèmes. Pour vous interroger, monsieur le directeur général, nous accueillons sur ce plateau d'Africa numéro 1 nos confrères Richard Eusé de Radio BBC Service Afrique, Laurent Marchand de Radio Vatican et en duplex avec nous depuis Tanger au Maroc, Patrice Martin, spécialiste des problèmes de développement à Radio Méditerranée Internationale. Merci monsieur le directeur général d'avoir accepté notre invitation. Ma première question serait de savoir: comment comptez-vous gagner votre combat contre la famine quand on sait que 800 millions de personnes sont menacées de famine dans le monde et que le continent africain est le plus touché par la famine à l'heure actuelle, car 30 millions de personnes risquent de mourir de faim dans 15 pays africains si on ne fait rien pour leur venir en aide? Monsieur Jacques Diouf.
Merci. Je voudrais d'abord dire le plaisir que j'éprouve à avoir cette occasion d'échanger des points de vue avec la presse sur les problèmes qui concernent notre institution. Comme vous l'avez indiqué, la lutte contre la faim est un des secteurs clés de l'action que nous serons amenés à mener dans les années à venir. Pourquoi? D'abord parce que le rôle principal de la FAO, la raison d'être, je dirais, de la FAO, c'est de libérer l'humanité de la faim. Or, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint cet objectif. Il y a toujours 800 millions de personnes qui n'ont pas un accès adéquat à la nourriture. Il y a toujours 192 millions d'enfants au-dessous de 5 ans qui ont un déficit protéinique et calorique. Et les perspectives offertes par les projections ne sont pas du tout très réjouissantes, dans la mesure où nous allons avoir 9 milliards de personnes en 2030, passant du chiffre actuel de 5,5 milliards de personnes. Mais face à ces problèmes, face à cette situation, nous avons beaucoup d'atouts. Et la FAO envisage de mobiliser ces atouts. Nous avons d'abord une institution qui comprend 170 États membres. Nous avons donc la capacité de faire appel aux connaissances techniques et aux ressources disponibles dans 70 États de nos membres. Nous avons aussi un second atout, c'est qui se situe au niveau des résultats obtenus en matière de croissance de la production alimentaire dans le monde. Nous avons les résultats obtenus en Asie, nous avons les résultats obtenus en Amérique latine. Ce sont des exemples concrets. Nous savons comment cela s'est fait, dans quelles conditions ça s'est réalisé. Et pour certaines de ces expériences, l'opération a été faite avec la coopération de notre organisation, avec la coopération de la FAO. En Afrique, nous avons surtout identifié le problème qui nous semble être le problème fondamental, c'est le problème de la maîtrise de l'eau. Nous considérons que c'est la seule régions au monde où la production irriguée est marginale. Elle représente à peu près 6% des cultures aujourd'hui. Or, dans tous les continents où nous avons réussi, où la communauté internationale a réussi à régler le problème de l'alimentation, le problème de la productivité, le problème de la production agricole, c'est en maîtrisant les différents facteurs et en particulier les facteurs qui permettent à l'être humain de ne plus dépendre des aléas climatiques. Nous pensons donc qu'il faut inverser le processus qui a été utilisé jusqu'à présent. On a beaucoup travaillé sur la vulgarisation, sur la recherche, sur l'utilisation de telle ou telle technique, de telle ou telle variété. Ces efforts sont utiles, sont louables, mais il me semble personnellement que tant qu'on n'aura pas maîtrisé l'eau, qui est source de vie aussi bien pour les êtres humains, pour les animaux, que pour les plantes, l'on ne pourra pas sécuriser une production et on ne pourra pas à ce moment parler de politique agricole.
Oui, Monsieur Jacques Diouf, nous avons en duplex dans cette émission notre confrère Patrice Martin, spécialiste du développement à Radio Méditerranée Internationale. Alors Patrice Martin, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Alors, dites-nous, est-ce que vous avez quelques préoccupations relatives à cette première partie de cette émission?
Absolument. D'abord, bonjour, Monsieur Diouf. Vous avez dit l'autre jour à Paris, lors de la négociation sur la convention de lutte contre la désertification, qu'il ne fallait pas lutter contre le symptôme, mais contre la racine de la maladie. Alors, je voulais vous demander quelles sont les racines de la famine, et est-ce que vous pensez que, comme les causes sont le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs nombreux, est-ce qu'on peut espérer pouvoir lutter sur tous les fronts à la fois de manière efficace?
On doit lutter sur différents fronts, mais on doit établir des priorités, car on ne peut pas tout faire à la fois. Je considère donc que dans le cas particulier qui nous importe, qui est le cas de l'Afrique, le cas d'un continent où la production per capita a baissé de 5% au cours des 10 dernières années, où on a eu à observer pendant les années 70 la sécheresse au Sahel, où les productions agricoles ont baissé de 80% du fait du déficit pluviométrique. Lorsqu'on a observé ce qui s'est passé en Afrique australe avec les sécheresses en Éthiopie, dans la zone de l'Érythrée, au Soudan, en Somalie, lorsqu'on a vu des pays qui étaient exportateurs comme le Zimbabwe et les autres pays d'Afrique australe d'une année à l'autre passer en position de déficit, avoir à faire des importations massives de vivres et pour certains pays faire même appel à l'aide alimentaire. Et lorsqu'on a vu tout cela, on se pose vraiment la question de savoir s'il ne faut pas changer de politique. Et à la FAO, j'ai proposé que nous changions de politique, que nous attaquions d'abord le problème de l'eau, d'autant que nous avons en Afrique un continent qui est doté de ressources hydrauliques importantes. Et nous perdons chaque année 5,1 milliards de mètres cubes d'eau qui vont à la mer. 5,1 milliards de mètres cubes d'eau. Les études de la FAO montrent qu'avec l'exploitation de 30% de ces ressources, on pourrait aménager 220 à 240 millions d'hectares qui permettraient naturellement de régler définitivement non seulement le problème de l'alimentation de la population maintenant, mais pour des générations à venir.
Une préoccupation de Laurent Marchand de Radio Vatican.
Oui, Monsieur Diouf, vous évoquiez la sécheresse à l'instant au Sahel, mais aussi en Éthiopie. Il y a un autre fléau qui ravage l'Afrique, ce sont bien sûr les guerres et qui freinent considérablement les efforts du développement. Comment la FAO se place-t-elle vis-à-vis de ces conflits? Réussit-elle à agir quand même ou est-elle elle aussi paralysée par ces situations de guerre?
La FAO observe avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'amertume, ces guerres, ces luttes qui non seulement détruisent ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire l'être humain, mais en même temps qui, avec tout leur cortège de destruction, entraînent des dégradations au niveau des terres, au niveau des cultures, au niveau de l'élevage, au niveau des forêts et dans des pays qui déjà en période normale ont des difficultés à faire face à leurs besoins, voire, excusez-moi le terme, tout ce gâchis, c'est non seulement immoral, mais comme dirait quelqu'un, c'est plus qu'un crime, c'est une faute de la part de ceux qui sont à la base de telles actions. Une institution intergouvernementale chargée de l'agriculture a malheureusement très peu de moyens pour agir, pour faire face à de telles situations, du moins lorsqu'il s'agit de régler directement le problème. Par contre, l'on peut agir au pourtour de ces problèmes. On peut agir avec notre institution sur le programme alimentaire mondial au niveau de l'aide alimentaire. Nous faisons des évaluations de besoins, tant du point de vue quantitatif et qualitatif, pour orienter les aides qui peuvent être apportées aux populations. Nous prenons aussi toutes les dispositions pour être à même d'intervenir de manière à rebâtir la capacité productive agricole de ces différents pays qui sont malheureusement pris sous le feu de ces luttes fratricides.
Une question de Richard Eusé de Radio BBC Service Afrique.
Monsieur le directeur général, puisque nous parlons des problèmes des guerres en Afrique, sur le cas spécifique du Rwanda, qu'est-ce que peut faire la FAO actuellement, ainsi que le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, pour soulager les problèmes qui peuvent se poser aussi bien à l'intérieur du territoire rwandais que dans les pays d'accueil des réfugiés?
À l'intérieur du territoire rwandais, très peu, puisque lorsque la parole est aux armes, lorsque le seul dialogue est celui des mitraillettes, des mitrailleuses et des canons que peut faire une institution chargée du développement agricole. La FAO et les institutions du système des Nations Unies qui interviennent dans le domaine de l'aide alimentaire peuvent par contre jouer un rôle très important au niveau des endroits où se trouvent les réfugiés, ces endroits qui ne sont pas toujours accessibles, ces endroits qui, même à l'extérieur des frontières, ne sont pas des endroits où la sécurité est toujours assurée. Mais le programme alimentaire mondial est engagé dans cette action. Nous avons encore plusieurs de nos experts dans les zones qui apportent aussi leur concours, mais dont l'action ne sera vraiment efficace que lorsqu'il y aura une certaine entente, un retour à la paix qui nous permettrait à ce moment d'aider à rebâtir ce que malheureusement on s'est évertué à détruire.
Oui, monsieur le directeur général, dans la même optique, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous comptez faire pour voler au secours des milliers d'enfants qui sont dans des camps de réfugiés en Tanzanie, en Ouganda aujourd'hui, et qui souffrent de malnutrition, qui souffrent de certaines maladies comme la tuberculose, comme le tétanos, comme la rougeole, pour ne citer que ces maladies. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aux côtés de l'UNICEF pour que ces enfants ne souffrent plus de la malnutrition aujourd'hui?
Oui, la FAO peut agir dans le cadre de son programme d'urgence, mais encore une fois, ce n'est pas la tâche essentielle de la FAO que de faire face à ces situations exceptionnelles, à ces situations conjoncturelle, mais malheureusement une conjoncture funeste, je dirais. L'AFAO doit travailler à la base, doit travailler structurellement, doit régler les problèmes de préservation des ressources naturelles, qu'il s'agisse des ressources forestières, des ressources halieutiques, aquatiques, des ressources animales, doit assurer une production annuelle des plantes dans des conditions qui tirent parti des connaissances techniques dont nous disposons. Mais tout cela ne peut se faire de manière efficace, de manière effective, que dans la mesure où il y a une possibilité de dialogue, il y a une possibilité d'action continue sans être sous la menace des armes.
Est-ce à dire que vous allez laisser mourir ces enfants qui souffrent de malnutrition, entre autres ?
Non, nous n'allons pas le laisser, puisque ce n'est pas malheureusement nous qui avons la capacité de faire quelque chose. Nous reconnaissons humblement que c'est un drame humain, mais nous reconnaissons aussi que nous avons un mandat, nous avons des moyens, nous avons des modalités d'intervention qui ne se prêtent pas à une action dans le cadre de conditions de conflit.
Est-ce qu'une synergie pourrait être développée entre la FAO et les organisations non gouvernementales qui opèrent sur le terrain?
C'est essentiellement le Programme alimentaire mondial qui est une institution seule qui peut intervenir dans ce domaine et qui a été conçue pour apporter des aides d'urgence en cas de troubles dus à des facteurs climatiques ou à des facteurs humains.
Monsieur le directeur général, vous êtes sans doute au courant de la menace qui pèse sur la Corne de l'Afrique. Selon certains chiffres, 15 millions de personnes sont menacées de famine aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique. Là aussi, qu'est-ce que vous comptez faire ?
Oui, là nous avons pu travailler, puisque c'est nous-mêmes qui avons identifié ces besoins. Ce sont nos missions conjointes avec le Programme alimentaire mondial qui ont permis d'avoir une alerte rapide, d'informer à temps à la fois la communauté internationale, tant au niveau gouvernemental, intergouvernemental, qu'au niveau des organisations non gouvernementales et du secteur privé. Donc la FAO a joué son rôle d'information, son rôle d'identification des besoins, de localisation des zones susceptibles d'avoir besoin d'un apport en aide alimentaire ou sous d'autres formes. Ce travail a été fait et c'est pour cela que vous avez ces chiffres très précis sur les pays, les zones, les besoins, les quantités. Il s'agit maintenant de mobiliser à travers le Programme alimentaire mondial, à travers les actions bilatérales, les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à cette situation qui risque d'être tragique si l'on n'engageait pas à temps les mesures qui se révèlent même déjà nécessaires.
Une préoccupation de Richard Eusé de la BBC.
Concrètement, Monsieur le Directeur Général, quels sont ces besoins et est-ce que vous comptez organiser une réunion de donateurs, de pays donateurs, pour obtenir un financement supplémentaire ?
Non, encore une fois, ça c'est la tâche du Programme alimentaire mondial. Nous avons fait l'action qui nous incombait, c'est l'action d'information rapide, l'action d'alerte rapide et l'action d'identification des quantités et des qualités de produits nécessaires pour faire face aux besoins. Mais à partir de ce moment, le relais va être assuré par d'autres instances du système des Nations Unies. Comme vous le savez, les Nations Unies sont une famille où chaque élément joue son rôle dans le cadre d'un ensemble intégré.
Une question de Laurent Marchand de Radio Vatican.
Oui, la vocation première peut-être de la FAO, vous l'avez dit vous-même, n'est pas nécessairement de travailler ni dans l'urgence ni dans l'efficacité sur le terrain en tant qu'intervention immédiate. Cependant, vous avez vous-même appelé à une plus grande efficacité à l'avenir dans la révolution verte que vous avez vous-même invoquée. Alors, comment va se traduire cette plus grande efficacité sur le terrain ? En d'autres termes, les gens qui meurent de faim ont faim, comment apporter justement à court, moyen et long terme, les moyens suffisants à la nutrition de ces populations.
Il faut d'abord une prise de conscience de la communauté internationale de l'importance du problème aujourd'hui et des perspectives d'avenir et des problèmes qui risquent de surgir si des mesures ne sont pas prises à temps. Et là, vous, hommes, il n'y a pas d'âme ici, hommes de médias, vous avez un rôle important à jouer dans la sensibilisation sur l'importance de ces problèmes et la nécessité de prendre des mesures aujourd'hui pour régler des problèmes structurels de manière à éviter que ces problèmes qui n'auraient pas été abordés aujourd'hui deviennent dans quelque temps des problèmes de gestion de crise parce que il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, les actions qu'on aurait pu mener n'auraient pas été conduites à temps. Ces actions sont multiples. Il y a des actions liées aux politiques agricole nationale des pays. Les pays concernés sont d'abord les premiers responsables de leur développement. La FAO peut leur apporter une assistance dans l'élaboration de politiques qui soient de nature à créer un environnement favorable à la production et à la productivité parce que favorable à l'amélioration du revenu de ceux qui travaillent dans le secteur. Le deuxième élément important, c'est un élément de ressources. Des ressources d'abord nationales. Les pays concernés sont dans des difficultés, ce n'est pas aisé, mais on ne peut pas détourner de la nécessité pour ces pays d'investir davantage dans le secteur agricole. Au niveau donc des choix budgétaires, une réallocation de ressources devra se faire au profit du secteur rural et agricole en particulier. Mais c'est une action qui nécessite aussi une intervention internationale. Une intervention internationale d'abord sous forme d'investissement. Maîtriser l'eau, assurer l'irrigation, veiller au drainage, construire des routes, construire des infrastructures de stockage, des chaînes de froid dans certains domaines, cela nécessite des ressources importantes. Les pays en voie de développement, et les pays africains en particulier, ne sont pas à même de mobiliser ces ressources. Ces ressources ne peuvent venir que de l'extérieur. Mais au lieu que des sommes importantes soit dépensé, comme c'est le cas aujourd'hui, lorsqu'il y a la sécheresse, lorsqu'il y a des crises pour faire face à ces problèmes, et la communauté se mobilise et effectivement apporte cette aide. Mais si cette aide, on l'a portée 4-5 ans plus tôt sous forme d'investissement dans ces secteurs que je viens d'indiquer, eh bien 5 années plus tard, on n'aurait pas à aller avec des avions, avec des moyens lourds pour pouvoir parachuter des vivres à des coûts exorbitants. Je peux vous citer le cas du premier projet d'aide alimentaire, parce qu'au-delà d'un certain montant, les programmes d'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial doivent être approuvés par le directeur général de la FAO. Le premier programme que j'ai eu à approuver, 80% des coûts étaient constitués par de la logistique. La partie alimentaire ne constituait que 20%. Donc, il faut que nous sortions de ce cercle vicieux de l'affectation continue, pour ne pas dire grandissante, de ressources aux actions d'urgence, alors que parallèlement, il y a des actions fondamentales qui seraient de nature à éviter ces besoins dans le futur, mais ces actions, nous ne les menons pas. Je peux vous dire que l'investissement l'aide extérieure pour l'investissement à l'agriculture est passé de 12 milliards en 1980 à 10 milliards en 1990, soit une baisse de plus de 20%, alors que pendant le même temps, la population mondiale a augmenté de 19%. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas logique. Il y a quelque chose à revoir. Et nous comptons sur le fait que nous avons 170 États membres et dans ces États membres les plus importants qui seront à même, avec un dialogue approprié, avec une consultation et une participation à tout ce processus que nous mettrons en place, nous espérons pouvoir les amener à apporter les ressources nécessaires pour pouvoir relancer de manière durable, de manière sûre, la production alimentaire dans les pays déficitaires.
Monsieur Jacques Diouf, l'eau, source de vie, fait partie intégrante de vos préoccupations du moment. Et vous l'avez dit tantôt au début de cette émission que sans cette eau, on ne pourra pas vivre sur cette terre. Alors, cela m'amène tout de suite à aborder la seconde partie de notre émission qui sera consacrée tout de suite aux problèmes de sécurité alimentaire. Sur ce, nous avons en duplex, une fois encore dans cette émission, notre confrère Patrice Martin, en direct de Tanger. Patrice?
Oui, une question toute simple, Monsieur Diouf, sachant que nous serons sur la planète 9 milliards d'habitants en 2030, comment peut-on nourrir de plus en plus de monde sans épuiser et polluer les ressources naturelles, et en particulier l'eau dont on parle? Considérez-vous à la FAO qu'il y a un seuil de saturation?
Oui, il y a nécessairement un seuil de saturation qui est constitué par les limites de l'intelligence humaine et de la sagesse humaine face à des ressources limitées. Il y a l'influence de la technique, il y a l'influence des progrès que l'être humain fait dans sa capacité à se rendre maître processeur et possesseur de la nature. Vous savez très bien que la théorie malthusienne partait du principe que la population croît de manière géométrique alors que les ressources croissent de manière arithmétique. L'influence de la technologie et du progrès a montré que l'on pouvait effectivement accroître d'une proportion extrêmement importante les ressources tirées de notre environnement. Mais on ne l'a pas toujours fait dans les meilleures conditions. On l'a souvent fait au détriment de notre environnement, au détriment de notre patrimoine. Il y a donc un équilibre à trouver. À quel niveau de population, c'est difficile à dire encore une fois, puisque c'est fonction non seulement des connaissances nouvelles que nous pouvons acquérir dans les biotechnologies, par exemple, dans les capacités de transférer des gènes qui codent pour non seulement une productivité plus grande, mais pour une résistance à certaines maladies, à certains insectes, et qui évite l'utilisation des insecticides qui sont facteurs de pollution. Il y a aussi le problème des engrais qui certainement seraient de nature à rendre plus difficile les productions, mais il y a des possibilités au plan biologique de faire prendre l'azote de l'air par les plantes. La science permet de faire cela. Et vous savez aussi que maintenant, on fait même des agricultures sans terre. Uniquement dans des conditions où il y a une certaine saturation d'eau autour de la plante et qui lui permet de prendre à la fois ses besoins hydriques et ses besoins nutritionnels. Il y a donc toutes les possibilités que l'intelligence humaine nous permet d'utiliser, mais face à ce potentiel, face à cet horizon ouvert, nous avons aussi la réalité de ce qui se passe de nos jours où nous sommes à même de maîtriser les vols spatiaux et pourtant il y a 800 millions de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à la nourriture.
Je voudrais demander à Patrice Martin s'il est satisfait ou s'il a d'autres préoccupations par rapport à cette importante question sur la sécurité alimentaire.
Oui, je suis satisfait de la réponse, mais je voudrais peut-être en complément demander encore à Monsieur Diouf comment précisément assurer le lien pour la FAO, le lien entre le niveau global de réponse à la question de la famine et le niveau très local, j'allais dire en comptabilisant chaque bouche à nourrir. Par exemple, est-ce que vous rencontrez des problèmes, des obstacles en matière d'information, de formation ou tout simplement d'échange entre les différents pays africains en particulier ?
Oui, il y a effectivement le problème fondamental de la propagation, si je peux utiliser ce terme, des connaissances techniques, de la propagation des voies et moyens par lesquels on peut être plus efficient. D'abord des pays développés vers les pays en voie de développement, de certains pays développés avancés vers des pays en voie de développement avancés vers certains pays en voie de développement moins avancés. Il y a toute la question aussi des ressources financières qui conditionnent l'utilisation de certaines connaissances et de certaines techniques. Il y a aussi, comme vous l'avez indiqué dans votre première question, le problème de la population elle-même et de son augmentation intrinsèque. Mais cette question reste liée au problème du développement économique. Il y a une corrélation étroite entre le taux de croissance de la population dans un pays et son degré de développement économique. Il y a aussi d'autres facteurs qui s'attaquent directement au problème de contrôle de la population, mais c'est un problème assez global et que l'on peut aborder sous de multiples facettes.
Une préoccupation de Richard Eusé de la radio BBC Afrique.
Cette corrélation étroite, monsieur le directeur général, est-ce que vous allez en faire cas à la conférence sur la population du Caire? Qu'est-ce que vous allez dire à cette conférence?
À la conférence du Caire, je vais parler de l'agriculture et je vais parler des relations plutôt entre population et ressources naturelles disponibles. Je vais parler de la nécessité de régler les problèmes structurels de la production, les problèmes de l'eau, les problèmes des technologies, les problèmes de l'investissement, qui sont des facteurs qui nous permettront de nourrir une population qui existe et de nourrir une population qui va croître. Et quelles que soient les mesures que l'on prendra aujourd'hui, cette population, de toute façon, elle va croître. Dans quelle proportion, à quel niveau elle va se stabiliser, cela peut faire l'objet de débats et de discussions. Mais la FAO, elle aura de toute façon à faire face à la nécessité d'accroître la production dans les pays déficitaires pour nourrir les populations qui n'ont pas un accès à la nourriture et d'accroître aussi la production et la productivité pour faire face aux besoins de la population additionnelle qui va résulter déjà du processus de multiplication sur la planète et qui va donner les résultats que l'on sait. Les projections l'indiquent de manière très claire. Maintenant, sur un horizon plus lointain, avec une croissance économique mieux répartie dans le monde, on sera certainement amené à stabiliser cette population en même temps que d'autres mesures seraient envisagées.
Monsieur le directeur général, deux mots-clés sont revenus sur vos lèvres tout à l'heure, au début de cette émission, de cet entretien qui porte sur la sécurité alimentaire. Un, la pollution. Deux, la formation. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour enrayer, pour endiguer le problème de pollution que la Corne de l'Afrique vit à l'heure actuelle en raison de la situation qui prévaut au Rwanda? On sait que des cadavres nagent pratiquement dans la rivière, le long du fleuve, le long de la frontière de la Tanzanie et du Rwanda. Alors, que comptez-vous faire pour assainir cette eau qui est vitale pour cette partie de l'Afrique? Et la seconde question serait de savoir aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il existe en Afrique un médecin pour 36 000 habitants en Afrique au sud du Sahara, comment comptez-vous résoudre le problème de la formation? Puisque sur ce chiffre que je viens de vous donner, il n'y a qu'un seul médecin qui peut prétendre parler de la sécurité alimentaire, alors qu'on a besoin de biochimistes en Afrique pour garantir la sécurité de l'alimentation, la sécurité de ce que nous consommons en tant que produit.
Lorsque je parle de pollution, c'est naturellement à travers le prisme déformant de ma fonction. Je parle de la pollution en matière d'irrigation, par exemple, parce que l'irrigation n'a pas que des avantages. Si vous faites une irrigation et vous ne faites pas un drainage approprié, vous avez un processus de salinisation des sols dans un certain nombre de pays où vous avez aussi votre niveau d'eau dans le Maestrichien ou dans l'Ustensien, hein, particulièrement au niveau du Maestrichien qui risque de remonter, et cela peut avoir des conséquences négatives. Quand je parle de pollution, j'ai à l'esprit l'excès d'utilisation de pesticides, notamment pour lutter contre un certain nombre de facteurs qui interviennent dans le processus productif agricole. Je pense aussi à l'excès d'utilisation d'engrais dans certaines conditions. Je peux continuer à vous citer la liste. Il y a le problème de certains éléments non biodégradables qui peuvent rester aussi dans le sol. Ce sont ces questions-là que le responsable de la FAO doit étudier, doit analyser, et avec ses collaborateurs et avec le soutien de ses États membres, doit essayer de résoudre. Nous pensons, par exemple, que pour tout ce qui est irrigation, il convient de veiller à ce que le drainage soit assuré. Cela pose des problèmes de coûts. Cela va entraîner des négociations sur la manière de déterminer les taux de rentabilité interne des projets agricoles. Faut-il les insérer? Sur quelle période faut-il amortir ces coûts? Il y a là tout un ensemble de facteurs qui ont une influence directe sur le degré de pollution selon la méthode que vous aurez adoptée dans tel ou tel endroit. Le problème de l'utilisation des engrais reste totalement en rapport avec à la fois la question d'avoir des engrais verts, les modalités d'utilisation, les périodes d'utilisation, les relations avec le niveau hydrique des sols. Et ceci peut avoir une conséquence positive ou négative selon la manière dont cela se fait. Les pesticides, comme vous le savez, la FAO a pu obtenir l'accord sur un code de conduite en matière d'utilisation des pesticides. Et ce code de conduite va permettre de veiller à ce que certains types de pesticides ne soient pas utilisés ou soient utilisés dans des conditions définies. Et même quand nous intervenons dans des cas d'urgence, comme la lutte contre les criques et pèlerins, nous veillons à moduler le type d'insecticide que nous utilisons en fonction de la nature du sol, en fonction de la zone, si elle est peuplée ou pas, s'il y a des lacs ou pas. Il y a là tout un ensemble d'éléments, d'approche de l'utilisation de la technologie qui devrait nous permettre de veiller à ce que le milieu de l'environnement ne soit pas dégradé, ne soit pas pollué.
Et dans le cas d'espèces du Rwanda et de ce qui se passe en Tanzanie, qu'est-ce que vous comptez faire?
Encore une fois, les problèmes d'urgence du Rwanda et de la Tanzanie, la FAO n'a pas la capacité, je vous l'ai dit, il faut avoir l'humilité de comprendre ce qui est à notre portée, ce qui est dans nos compétences et dans nos moyens, à la fois politiques, à la fois techniques. Et avec tristesse, surtout en tant qu'Africain, je dois avouer qu'il y a des domaines concernant le Rwanda où nous ne pourrons rien faire tant qu'il n'y aura pas la paix.
Et en matière de formation des biochimistes?
Pour ce qui est de la formation, nous pensons que c'est un élément indispensable à tout progrès. S'agisse du secteur agricole ou de tout autre secteur. Et nous pensons qu'il faut voir cet aspect formation à la base. Il faut voir d'abord la formation au niveau des paysans, des pasteurs, des pêcheurs qui ont besoin d'avoir quelques techniques de base, quelques techniques qui n'ont pas besoin d'être extrêmement sophistiquées. Et avec ces techniques-là, déjà un progrès. Il y a un potentiel important d'accroissement de la productivité. Par exemple, l'espacement des cultures, la période à laquelle on apporte l'eau, la formule d'engrais azoté, phosphaté ou en potassium que l'on peut apporter à tel ou tel élément ou tel micro-élément nécessaire pour telle ou telle plante ou tel type de coupe et de taille. Voilà les questions qui nécessitent au niveau de base, au niveau de ceux qui travaillent réellement sur le terrain, un effort de transfert de connaissances qui est indispensable. À un niveau plus élevé, qui dépasse largement le cadre encore de la FAO, mais qui conditionne la capacité de la FAO à être efficace, il y a l'alphabétisation. Si nous arrivons dans un domaine où la population n'est pas alphabétisée, comment allons-nous transférer les connaissances si les personnes ne peuvent pas lire, si on ne peut pas leur remettre de petits documents indiquant les techniques, les méthodes. Il y a à la base du développement agricole la nécessité d'une formation, d'une alphabétisation qui est la condition sine qua non pour tout progrès.
Transition toute trouvée pour aborder la troisième partie de cette émission qui sera consacrée à la mise en œuvre de votre politique générale de restructuration et de redynamisation. Je passe tout de suite la parole à notre confrère Laurent Marchand de Radio Vatican.
Oui, vous me corrigez si je me trompe, mais on pourrait peut-être qualifier la FAO de conseiller scientifique chargé de la prévention et des gestions des ressources agricoles, en quelque sorte. Alors, comment ce travail de prévention, d'analyse, de connaissance du terrain et donc d'action à long terme avec un travail de prévention à la base, peut-il être plus efficace, comme vous l'avez dit, en réduisant le budget, tel est le cas pour 94-95? Je crois que vous avez enclenché tout un processus de restructuration de l'organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel levier vous entendez agir?
Oui, la FAO doit être un conseiller scientifique, un conseiller économique et un conseiller financier pour les questions qui touchent à l'agriculture. L'agriculture lato sensu, naturellement, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les forêts et les pêches. Nous avons naturellement une fonction globale, une fonction normative, une fonction de régulation. Nous mettons aussi au point des normes de produits alimentaires en relation avec l'OMS dans le cadre du Codex Alimentarius. Il y a donc certaines fonctions qui doivent être centralisées, qui doivent être menées au niveau du siège de l'institution en rapport avec nos États membres. Cette fonction nous a amené à maintenir les structures telles qu'elles existaient au niveau de l'agriculture, au niveau des forêts, au niveau des pêches et au niveau du département économique et social. Globalement, nous ne les avons pas beaucoup modifiées. Mais nous avons pensé d'abord qu'il y avait un nouvel enjeu international, un nouveau défi qui est apparu plus clairement avec le sommet de Rio, c'est le défi du développement durable. Comme la FAO est l'institution qui a les plus grandes responsabilités en matière de ressources naturelles, compte tenu du champ d'action que nous couvrons, il était important d'avoir une structure qui à la fois veille à intégrer l'ensemble des actions sectorielles de l'institution, mais qui constitue l'interface avec les structures chargées au niveau des Nations Unies, notamment le Comité pour le développement durable, de suivre l'application et l'exécution des décisions auxquelles la conférence de Rio a abouti. Nous avons veillé dans cette structure à mettre l'accent sur la partie technologie, sur le rôle des femmes et de la participation populaire, sur les questions de réforme agraire, donc toutes les questions relatives à l'utilisation des sols qui sont la base du milieu naturel. Nous avons aussi estimé qu'il fallait avoir une capacité de répondre plus rapidement aux besoins des États membres de manière opérationnelle. C'est pour cela que nous avons proposé, et ceci a été accepté, un département de coopération technique qui ait trois fonctions. Une fonction d'assistance en matière de politique agricole, une fonction de préparation de projets pour accroître l'investissement et une fonction de participation à la mise en œuvre des projets sur le terrain à la demande de nos États membres.
Sur le même registre, nous avons en duplex dans cette émission notre confrère Patrice Martin de Radio Méditerranée Internationale. Patrice ?
Oui, je voudrais revenir, si vous le permettez, à la convention de lutte contre la désertification qui se négociait la semaine dernière à Paris. Alors la solution de compromis pour élaborer le texte sur le plan financier semblait être de dire qu'il ne fallait pas forcément plus d'argent, mais une meilleure utilisation de cet argent. Alors je voudrais demander à Monsieur Diouf, face à la désertification, que fera la FAO très concrètement dans le cadre de cette convention-là et surtout avec quels outils ?
Oui, naturellement, l'idéal eût été d'avoir plus d'argent et de mieux utiliser cet argent. Mais comme vous le savez, les ressources financières sont limitées. La FAO a déjà été à la base des études techniques ayant mené à cette convention sur la désertification. La FAO a indiqué qu'elle était disposée à participer à la mise en œuvre de cette convention et à mettre des ressources humaines et des connaissances techniques à la disposition du mécanisme ou de la structure qui serait chargée de la mise en œuvre de cette convention sur la désertification. Dans tous ces domaines, nous avons indiqué notre disponibilité à coopérer, notre disponibilité à aider à la mise en œuvre de ce programme. Avec quelles ressources? Nous n'avons naturellement que nos ressources propres et les ressources que nous serions en mesure de dégager dans le cadre des fonds fiduciaires que nous négocions avec nos différents États membres.
Autre préoccupation de Patrice Martin?
Non, très bien, je vous remercie. Je crois que la réponse est assez claire.
Merci. Je passe tout de suite la parole à Richard Euzé de la radio BBC Service Afrique.
Monsieur le directeur général, dans cette politique de restructuration, comment entendez-vous renforcer la présence de la FAO en Afrique?
La présence de la FAO va être renforcée dans le cadre de la politique générale de décentralisation des ressources. Pour le moment, 3/4 de nos experts sont au siège. Nous avons pour objectif d'arriver à 2/3 des experts au siège dans une première phase et après évaluation des résultats et de l'impact de cette décentralisation, nous verrons s'il faut aller plus loin. Nous allons en Afrique particulièrement créer 2 bureaux sous-régionaux. Un bureau sous-régional pour l'Afrique australe et orientale et un bureau sous-régional pour l'Afrique du Nord qui fait partie aussi du Moyen-Orient, d'ailleurs dans la structure de la FAO. Nous allons essayer de renforcer notre bureau régional pour l'Afrique qui est à Accra. Et nous envisageons développer les ressources disponibles au niveau de nos bureaux nationaux par l'utilisation des ressources nationales, de l'expertise nationale, des institutions nationales, puisque nous pensons qu'une telle action, outre qu'elle nous permettrait d'avoir une capacité d'intervention plus grande, donnerait aussi l'occasion pour former ces cadres aux méthodes de travail de la FAO dans le cadre de programmes de coopération qui seraient menés conjointement.
Monsieur le directeur général, on l'a souvent fustigé, il y a au niveau de Rome un pléthore d'experts, un pléthore de personnel, de techniciens qui ne servent pas à grand chose. Alors, comment comptez-vous mener à bien cette politique de décentralisation dont il est question dans votre politique générale, et à quelle proportion se fera cette décentralisation?
Non, tout d'abord, je suis pas d'accord qu'il y a pléthore d'experts qui ne font rien, ils travaillent. La question qui se pose, c'est de savoir où on doit les utiliser de manière optimale et où est-ce qu'ils seront à même d'obtenir le rendement le plus important, l'efficacité la plus grande. C'est donc une stratégie de localisation optimale de l'expertise, et c'est ce que nous allons faire, puisque nous pensons que dans cette phase où nous donnons la primauté à l'action, nous donnons la primauté à l'intervention sur le terrain, nous devons avoir davantage d'experts sur le terrain, étant entendu que si nous avions choisi l'option de la fonction globale, de la fonction normative de la FAO, les experts resteraient ici à Rome, parce qu'à ce moment-là, ce serait l'endroit idéal pour ce type de travail.
En d'autres termes, il y aura combien de fonctionnaires qui partiraient de Rome pour d'autres horizons?
Je ne peux pas vous dire le chiffre exact maintenant. Ce que je vous ai donné la proportion, je vous ai dit que nous passerions de trois quarts d'experts à Rome à deux tiers d'experts à Rome.
Monsieur le directeur général, on vous reproche entre autres de ne pas assez communiquer avec la presse. Comment comptez-vous résoudre ce problème de déficit en matière de communication avec la presse internationale? Et comment comptez-vous consolider l'acquis que vous avez au niveau de la FAO, à savoir bon, des correspondants qui sont ici sur place et qui communiquent avec le reste du monde? Je prends l'exemple de notre correspondante et qui nous envoie régulièrement des comptes rendus, des papiers de réunions, de colloques à Africa numéro 1.
Je ne sais pas s'il n'y a pas erreur sur la personne, je ne sais pas si cette critique s'adresse à mon prédécesseur ou à moi-même. En tout cas, depuis mon arrivée, je crois avoir veillé à avoir des contacts suivis avec la presse. Dès le lendemain de mon élection, j'ai eu une conférence de presse avec l'ensemble de la presse étrangère et de la presse italienne. Depuis lors, j'ai effectué une série de visites dans différents pays, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes. Et partout où j'ai été, j'ai accordé des interviews. Et je pense que le niveau de contact avec la presse, je l'estime satisfaisant. Il ne faut pas non plus arriver à de la saturation et répéter les mêmes choses. Il faut, quand on s'adresse à la presse, il faut, quand on organise des contacts avec des personnalités médiatiques de haut niveau que vous êtes, il faut avoir quelque chose de concret à dire, et il faut avoir de la substance et ne pas intervenir juste pour répéter les mêmes choses.
Monsieur le directeur général, cette émission tire à sa fin. Avant de nous séparer, nous allons aborder la quatrième et dernière partie de notre entrevue, qui sera axée sur l'impact de la dévaluation du franc CFA sur la politique de production et de productivité de la FAO. Et sur ce, je passe tout de suite la parole à notre confrère de Radio Vatican, Laurent Marchand.
Oui, on voulait vous poser des questions d'ordre plus économique et financière à la fin de cette émission, avec deux volets. L'impact donc de la dévaluation du franc CFA, comme vient de me le dire mon collègue, mais également l'impact des accords du GATT, et donc au niveau plus commercial, sur l'évolution en Afrique notamment, à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur ces deux sujets?
Oui, c'est encore une fois difficile de donner une réponse avant d'avoir d'abord eu le temps, de se donner le temps. Je crois que c'est un grand homme français qui disait qu'il faut donner du temps au temps, pour pouvoir vraiment évaluer positivement le résultat de cette dévaluation. On peut cependant, partant de la théorie économique et des expériences de dévaluation, envisager deux impacts possibles. Il y a d'abord l'impact sur les importations. l'impact sur les importations va être un renchérissement du coût, rendant donc les produits importés moins aptes à la concurrence avec les productions nationales. Mais augmentant naturellement le coût d'approvisionnement des populations, essentiellement des villes. Il y a l'impact sur la production. L'impact sur la production peut s'analyser à différents niveaux. D'abord, au niveau des intrants agricoles, engrais, fongicides, etc. Là, vous avez une augmentation des coûts si la production n'est pas nationale. Et dans la plupart des pays africains, la production n'est pas nationale. Vous avez l'impact sur les semences, c'est une production locale en général, donc là vous n'avez pas d'impact négatif. Et enfin, vous avez l'impact sur l'énergie, l'eau en particulier, et en général une production que j'appellerais nationale, bien qu'il faille voir comment cette eau est fournie dans les différents canaux, si c'est par voie gravitaire ou si c'est par des engins, soit électriques ou autres, qui nécessitent naturellement un apport d'énergie extérieure. Donc vous avez là aussi des éléments de renchérissement du coût. Mais comme vous avez augmenté le prix des denrées importées, ce qui vous donne une marge supplémentaire pour augmenter les prix de vos productions locales. Si vous augmentez effectivement ces prix, vous allez pouvoir compenser ces éléments d'intrants du point de vue coût et rendre votre production locale plus compétitive. Il y a beaucoup de si. C'est un peu le schéma classique de l'impact de la dévaluation sur le secteur agricole. Il y a naturellement la question des pays qui subventionnent les importations pour favoriser les consommateurs des villes. Est-ce que les subventions vont bouger ou pas? Est-ce que les subventions sont en monnaie locale ou sont en monnaie internationale? Il y a là tout un ensemble qui peut modifier l'impact. Donc, globalement, une dévaluation vous offre une opportunité d'améliorer votre position compétitive au plan des productions internes par rapport aux productions agricoles externes.
Une toute dernière question de Richard Eusé de la radio BBC Service Afrique.
Monsieur le directeur général, vous avez l'intention d'organiser un sommet alimentaire mondial en 1996. Il y a eu celui de 1974 et les effets de ce sommet de 1974 n'ont pas été forcément très concluants. Alors, 1996, c'est encore loin, c'est dans 2 ans, mais c'est déjà demain. Nous avons bien compris vos préoccupations au cours de cette émission, mais concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez voir adopter en 1996?
Oui, 1974 a eu quand même des résultats. Si vous voyez l'augmentation globale de la production alimentaire dans le monde, il y a eu des effets extrêmement positifs et je dirais même des succès du point de vue disponibilité globale d'aliments. Le problème qui s'est posé, c'est le problème de la répartition et le fait que certaines zones aient été laissées en dehors de ce progrès. Notre souhait est qu'à l'occasion de ce sommet que j'ai proposé, c'est que l'on puisse maintenant se concentrer sur les besoins des pays à revenus faibles, déficitaires au plan alimentaire, et que les investissements de base puissent être effectués de manière à leur permettre, dans le cadre de politiques plus en faveur du secteur agricole, de pouvoir lancer leur croissance et veiller à assurer la nourriture de leur population.
C'est la fin de cette émission. On participait à la réalisation. C'est la fin de cette émission. On participait à la réalisation de cette édition du Club de la presse d'Africa numéro 1, une heure pour convaincre. Richard Eusé de Radio BBC Service Afrique, Laurent Marchand de Radio Vatican et Patrice Martin de Radio Méditerranée Internationale. Au micro, Mohamed Yessoufou Saliou, à la technique, Eric Deleu du studio Radio Télévision de la FAO à Rome. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir été l'invité de la semaine. Bonne chance et à très bientôt sur les antennes d'Africa numéro 1. Bonne fin de semaine à toutes et à tous et à samedi prochain pour une nouvelle édition d'une heure pour convaincre.